Bonjour, chers amis. J'espère que vous avez passé une belle nuit et que vous vous êtes réveillés en souriant, accueillis 24 heures toutes nouvelles. Nous sommes le 17 novembre et c'est la dernière journée de la retraite, la pluie du Dharma. C'est comme d'habitude, une belle retraite et aussi, comme d'habitude, trop courte. Je suis très content de revoir beaucoup de mes amis anciens et très content de recevoir des nouveaux amis. J'ai beaucoup aimé la composition de cette retraite. Nous étions 60, dont 17 nouveaux. Alors, ça fait une très bonne proportion de nouveaux amis. Et j'espère que vous y avez pris assez le goût pour continuer avec nous. Une retraite, c'est surtout cette retraite, la pluie du Dharma. C'est pour nous permettre de nous arrêter, de nous donner le temps de prendre soin de nous donner le temps de nous regarder, de nous voir, de faire un bilan de notre vie. Peut-être d'en sortir avec une, deux, trois, quatre, cinq. Okay, cinq. Résolution. Dépendamment de comment nous sommes arrivés, dépendamment du bagage avec lequel nous sommes venus, dépendamment du degré de notre ouverture, dépendamment d'innombrables conditions. La pluie du Dharma qui a tombé durant toute cette retraite nous a touchés chacun, chacune, d'une façon unique. Je ne sais pas comment vous, chacun de vous, chacune de vous, ont été touchés par cette pluie. Mais c'est mon souhait que vous avez pu identifier quelques-uns des feux que cette pluie peut apaiser et aussi quelques-unes des belles graines que cette pluie a pu toucher et nourrir. Et que ça fasse partie de vos résolution pour poursuivre ce chemin de pratique. Pour poursuivre dans cette idée, je voudrais vous demander, lorsque vous remplirez votre évaluation de la fin de retraite, de les identifier. Les feux que vous pensez que cette pluie a pu aider à soulager et les graines positif que cette pluie a pu toucher en vous. C'est bon de pouvoir les écrire pour les rendre plus réels et plus, moins conceptuels, mais plus concrètes, les porter avec vous pour la suite. Je pense que je vais commencer par les annonces publicitaires pour ne pas oublier, et surtout ne pas manquer de temps après. Donc cette retraite, c'est pour moi, en tout cas j'espère que ça sera pour les anciens un rappel, un rafraîchissement, et pour les nouveaux une initiation, une invitation pour vous inviter à ramener cette pratique dans votre vie de tous les jours. Et parce que nous pratiquons cette pratique, nous savons qu'il y a un élément qui est essentiel et que nous ne pouvons pas ne pas avoir pour pouvoir poursuivre cette pratique, c'est la présence d'une sangha. Et à Montréal, on est très, 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 très choyé, béni d'avoir beaucoup, beaucoup d'opportunités pour des pratiques continues. Alors je vous invite à vous joindre à nous les lundis soirs, les mercredis soirs, les jeudis soirs, les mercredis après-midi, les mardis après-midi, Les mardis soirs, les vendredis soirs une fois par mois, les samedis toute la journée et les dimanches toute la journée une fois par mois, puis deux retraites par an. Consultez notre site web, on est là pour ça, on voudrait, comment dire, sans avoir l'air d'être un témoin de Jéhovah qui est en train d'essayer de vendre un truc. Et en fait, je m'excuse, ce n'est pas de la discrimination, mais c'est, on parle de plus du dharma. Alors donc, l'invitation est ouverte. Je voudrais surtout à vous mentionner deux groupes particuliers. Le groupe du mercredi soir, qui est un groupe qui est co-animé par Lily et Dr. Suzanne Lamar, qui est psychiatre. Mercredi après-midi, donc de 3h à 5h, en collaboration avec l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie. On vient de commencer aussi un groupe pour les thérapeutes, qui a commencé vendredi dernier. Vendredi de 9h30 à 11h30. Alors, ce sont les deux groupes du matin. En tout cas, il y a beaucoup, plein de choses. Alors donc, regardez le site web pour ça. Mais en particulier, ces deux groupes qui sont des groupes pilotes que nous commençons et où nous pensons qu'il y a un grand besoin. Mon frère Kyung-ho, qui a donné un beau Dharma Talk hier, va revenir pour enseigner les jeudis soirs à partir de janvier, un cours de 8 semaines sur les nombres du dharma. Alors, il ne peut pas pleuvoir plus que ça, n'est-ce pas? Plus que ça, ça va être comme les Philippines, on va noyer, alors donc, ça va suffire. Très belle cérémonie de transmission des entraînements ce matin. Ok. J'ai fini avec les annonces, ça va? La prochaine annonce, c'est personnel. Je pars le 25 novembre et je vais revenir pour le 4 avril pour une retraite ici. Alors donc, on se revoit ici le 4 avril 2013, non 2014, pour la retraite du printemps. Entre-temps, d'ici là, je vais essayer de rester en contact avec nous via Skype et GoToMeeting. Alors, à chaque mois, je vais continuer de donner mes enseignements sur GoToMeeting en anglais et par Skype en français. Ces technologies, on dépend toujours de la technologie. Alors, ça se peut qu'on puisse connecter, ça se peut que non, mais quoi qu'il en soit, je serai toujours avec vous présent. La prochaine retraite urbaine, pour ceux qui ont connu celle que nous avons eue il y a 2 mois, nous allons faire une retraite à la Maison Pleine Conscience, Institut Pleine Conscience Appliquée, 6000 Côtes des Neiges, suite 110-115, et l'idée, c'est de le pouvoir le faire dans un milieu qui soit le plus proche ou semblable à notre environnement quotidien. Nous y allons le matin et nous restons là jusqu'au soir. On prend le métro ou la voiture pour rentrer chez soi et on revient le lendemain. Et on essaie, entre ces deux, de rester avec cette pratique lorsque nous rentrons chez nous. Donc la retraite commencerait vendredi fin d'après-midi jusqu'au dimanche après-midi de la même chose qu'ici. Et la seule différence, c'est que nous ne couchons pas sur place. Quelques-uns coucheront sur place. Vous savez, dans chaque retraite, c'est toujours à peu près le même pattern qu'on arrive. C'est que on arrive, on est encore pris dans nos trucs et puis là, on se dépose un peu. Samedi, les organisateurs nous aiment tellement qu'ils nous ont. Et dimanche soir, on est mort. Mais c'est ça l'idée. C'est de vous en donner pour votre argent. La prochaine fois, lorsque nous referons la retraite et que nous parlerons des activités, je nous le rappellerai plus fortement encore. Je vous avais mentionné que toutes les activités étaient des offres optionnelles. Alors, je vous l'avais mentionné une fois seulement cette fois-ci. La prochaine fois, je vais le dire trois fois. Alors là, je l'ai dit deux fois, je vais le dire une troisième fois pour que vous en souveniez la prochaine fois. Donc. Mais la pratique de pleine conscience est une pratique fatigante. Oui, c'est fatigant pour plusieurs raisons. Hier, Tiango nous a donné une très très belle, un très bon résumé sur le fonctionnement de l'esprit. Et il a parlé du fonctionnement de l'esprit avec tout ce que nous recevons, puis les 18 éléments, puis en tout cas cette grosse chose compliquée. Mais ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que dans notre vie de tous les jours, nous fonctionnons de façon automatique. Et donc, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on fait les choses de façon automatique. Mais lorsque quelqu'un nous dit « Ok, arrête !» Juste arrêter, c'est difficile. Puis là, on ne peut pas tenir tranquille. Alors, pour se freiner, ça prend beaucoup plus d'énergie. Et lorsqu'on marche, on doit faire chaque pas dans la pleine conscience. C'est encore beaucoup plus facile de juste... Aussi, une autre chose, c'est lorsqu'on arrive dans une retraite, on let go. Alors l'adrénaline n'est plus là et on ne fonctionne plus de cette façon-là. Et la fatigue qui a été masquée par toutes ces choses-là, qui n'est pas due à la retraite, mais qu'on a accumulée pendant notre vie, elle se manifeste et c'est pour ça qu'on s'écrase. Donc c'est parfait, c'est tout à fait normal, ne vous en faites pas. Une autre chose que j'ai... qui peut arriver et qui arrive aussi pendant une retraite, c'est que on s'ouvre le cœur et on se laisse aller. Alors les souffrances que nous avons et que nous n'avons pas le temps de regarder, de voir ou de laisser émerger, ont leur place pour pouvoir émerger et ça se passe dans une retraite silencieuse. Alors donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent arriver dans une retraite qui font que, mais ne vous en faites pas, ou bien malheureusement, ces conditions-là vont arrêter très vite. Aussitôt que vous allez sortir sur la 13 et qu'un camion va vous couper, les énergies d'habitude vont revenir et that's it, ça va être fini. Pourquoi je dis cela? C'est que cette pratique, c'est une pratique qui est simple, qui est, mais c'est une pratique qui est... je ne suis pas sûr du mot que je dois utiliser. Ça demande de l'énergie. Ça demande de l'énergie pour la pratiquer. Et ça demande de l'énergie pour la soutenir, pour la maintenir, pour la garder, etc. Et lorsqu'on parle de pratique, je voudrais nous rappeler ce que Lily nous a enseigné hier. La pratique, c'est une pratique de l'arrêt. Une pratique de l'arrêt pour... Ok, je vais parler de l'arrêt. Un grand ami, un grand maître, un excellent pratiquant, l'ancien abbot de Deer Park, Thayyartan, illumination par le son, nous a raconté une fois où nous a enseigné sur l'arrêt. Et il nous a dit... ça semble simple, mais ce n'est pas une pratique simple, c'est une pratique très profonde. C'est un moine qui a commencé à pratiquer à l'âge de 16 ans, et lorsqu'il a eu cette conversation avec moi, il était dans la cinquantaine avancée, en 40 ans de pratique. Et il m'a dit, tu sais, Ntienghui, on parle, et lorsque j'entends... Et là, ce n'est pas de la discrimination, mais lorsque j'entends ces jeunes dharmacharya enseigner l'arrêt et la vision profonde et tout ça, ça me donne envie de vomir. Là, c'est le langage de maître zen. Ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Et lorsqu'il parle de ces jeunes d'Amacharya qui parlent et qui ne savent pas de quoi il parle, je me sens, il est en train de m'enseigner. Il m'a dit, tu sais, la seule fois où j'ai pu, Lily utilise un très bon mot, c'est sentir. Avez-vous remarqué? Elle dit, bah, j'inspire, je sais que j'inspire. Elle dit, j'inspire, je sens que j'inspire. Alors, sensation, sentir. La seule fois que j'ai senti que j'étais presque arrêté, c'était lorsque j'étais dans mon lit d'hôpital et que je me suis battu pendant des jours pour pouvoir survivre et que j'étais tellement exhausted que je me suis dit ou que j'ai dit, Bouddha, si vous me voulez, prenez-moi. Je ne me bats plus et je l'ai laissé aller. Et c'est le seul moment où j'ai pu voir que j'étais à peu près, presque arrêté. Alors lorsqu'on parle d'une pratique dans cette tradition, on peut échanger entre nous par des mots qu'on essaie de... Et on essaie d'utiliser les mêmes mots pour essayer de se comprendre un peu. Mais lorsque je dis arrêt, ça veut dire quelque chose pour moi. Et j'espère que ce que ça veut dire pour vous, c'est, ça ressemble un peu à ça. Et je pense qu'on peut se comprendre parce que je suis au même niveau que vous. Donc on sait que lorsqu'on arrive à un feu rouge, on doit s'arrêter. Sinon la police va nous arrêter. Il y a des signes rouges avec stop. Est-ce que c'est toujours stop ou arrêt maintenant ici? C'est arrêt, c'est pas stop. Okay. Bon, arrêt. Il faut qu'on... Bah, même, puis même là, on n'arrête pas, on regarde s'il n'y a pas une police, on passe, right? Mais au moins, on sait ce que ça veut dire, à peu près. Mais aller en Chine, et puis c'est un autre mot qu'ils utilisent pour arrêt. Mais, alors vous lui dites stop ou arrêt, ils ne comprendront pas. Et lorsqu'ils utiliseront le mot qui, en chinois, c'est quoi? Qui? Something like that. Ça peut dire complètement quelque chose d'autre. Et c'est cela le danger, c'est que lorsque je suis avec vous et que je parle un certain langage et qu'on est au même niveau, on se comprend. Je voulais vous annoncer une bonne nouvelle, mais je pense que la façon dont je me suis pris, je pense que je suis en train de dévier. La pratique est... Je ne sais pas si pendant la retraite, nous avons pu lire ou réciter ou chanter l'ouverture, le gatha d'ouverture. Le dharma est profond et merveilleux. Et c'est cela que je voulais vous partager. C'est simple, un seul mot. Arrêt. Mais c'est très profond. Et lorsqu'on se donne la peine de l'approfondir, on va découvrir comment merveilleux ça peut être. Et plus on y est, et plus merveilleux ça devient. Êtes-vous arrêté ou êtes-vous en train de penser? Quoi êtes-vous en train de penser? Arrêtez. 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 Lorsqu'on est arrêté, on est arrivé. Mais si on n'est pas arrêté, on ne peut pas arriver. On n'est jamais arrivé si on n'est pas arrêté. Et où est-ce qu'on arrive? Chez nous. C'est juste ça la pratique. Je suis chez moi. Je suis arrivé. Je suis vraiment chez moi. Je suis bien arrivé. C'est tout mon amateur. Bon, on est bien arrivé, on peut continuer. Dans tous les enseignements du Bouddha, quelqu'un a posé la question, c'est quoi le dharma? Alors dharma, c'est très simple, c'est les enseignements. Les enseignements du Bouddha avec un grand B. Et lorsqu'on dit Bouddha avec un grand B, ça inclut la notion de l'universalité du Bouddha. Ça inclut la notion des vies infinies et des manifestations infinies du Bouddha. Et hier, je vous avais mentionné que Jésus est un Bouddha et que Mohammed est un Bouddha. Tous ces enseignements sont des enseignements du Bouddha et ça constitue le Dharma. Et la pluie du Dharma dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est cette pluie universelle qui a la capacité de pouvoir éteindre les feux et nourrir toutes les bonnes graines d'amour et de compassion et de compréhension et de libération que nous avons tous à l'intérieur de nous. Et lorsque j'approche le Dharma, lorsque j'apprends le Dharma, lorsque je pratique le Dharma, je me souviens toujours, et je le fais toujours en fonction, sur la base des quatre nobles vérités. Alors hier, lorsque Tiang Ho nous a parlé des quatre nobles vérités, il nous a parlé de la première qui est la souffrance. Cause de la souffrance. La non-souffrance. Et le chemin. Et lorsque j'apprends le Dharma dans ce contexte, je me souviens également d'un enseignement de notre maître, Thay Thi Nhat. Et ce que Thay dit, c'est que le Dharma du Bouddha, Bouddha Dharma, n'est Bouddha Dharma que lorsqu'elle s'adresse à vos propres souffrances. Ce ne sont pas des concepts philosophiques à apprendre, ce ne sont pas des connaissances que nous voulons avoir. Ça doit être directement relié, connecté à nos propres souffrances. Et c'est pour ça que lorsque nous venons à une retraite, ou lorsque Thay nous enseigne, la première question qu'on se pose, c'est quelles sont mes souffrances? Et c'est pour ça que lorsque vous venez à cette retraite, nous vous demandons de rédiger un questionnaire et je vous dis que c'est pour moi parce que je sais que vous m'aimez et que vous allez le faire pour me faire plaisir. Mais en fait, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est pour pouvoir les identifier. Alors lorsque vous le faites pour moi, ça vous donne une chance de pouvoir faire ce que vous ne faites pas d'habitude. Et lorsque je dis vous ne faites pas d'habitude, ça m'inclut moi aussi. Nous avons le réflexe de fuir la souffrance et de rechercher le confort. Et c'est cette fuite qui fait que nous ne nous donnons jamais la chance de pouvoir être avec notre souffrance. Et c'est un phénomène qui s'appelle de l'oppression. Et une souffrance opprimée ne fait qu'empirer. Alors lorsque nous nous arrêtons et que nous sommes dans un environnement de sécurité, et que nous sommes enveloppés dans cette énergie de pleine conscience. Nous savons que lorsque nous touchons à notre souffrance, qu'elle va se manifester, mais que nous serons enveloppés par l'énergie de pleine conscience collective, et que nous serons toujours en sécurité, qu'on n'a pas besoin de s'en cacher, qu'on n'a pas besoin de... Cette fuite s'est causée par le filtre que Tiang Ho a parlé hier, le manas, cette septième conscience qui est toujours là pour pouvoir nous protéger. Et c'est tout à fait normal, et c'est comme ça que ça doit être. Parce que sans le manas, on serait mort depuis longtemps. C'est ce manas qui nous a permis de prendre notre première bouchée d'air après que le docteur nous est sorti du ventre de notre mère et coupé le cordon. Et c'est cet instinct de survie qui nous a amenés jusqu'ici. Mais c'est lui aussi qui est toujours là pour nous voiler, pour nous empêcher de voir ce qui est vraiment derrière. Donc la pratique de la pleine conscience, c'est cette pratique qui nous demande de nous arrêter, qui nous permet de nous arrêter, qui nous entraîne à nous arrêter. Et lorsqu'on peut, lorsqu'on sait comment s'arrêter, on peut faire ce travail. On est arrêté, on regarde, on ne fuit pas. On ne fuit pas. Et on pratique la pratique de transformation. Thay nous enseigne la pratique de la pleine conscience avec les quatre établissements de la pleine conscience. Et le premier établissement de la pleine conscience, c'est la pratique du corps dans le corps. La pratique du corps dans le corps, où nous nous arrêtons, nous pratiquons l'arrêt par la pratique de la respiration. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Et lorsque je pratique cette respiration, je m'arrête. Et lorsque je suis avec ma respiration consciente et que j'essaie de m'arrêter, ça me calme. Lorsque Thay enseigne la guérison du corps, il prend l'exemple d'un loup. Et je ne sais pas c'est qui au Canada qui lui a raconté l'histoire. Mais dans nos campagnes ou dans le nord, on pratique encore la trappe, c'est ça? On met cette cochon. Et puis là, le loup, il vient. En tout cas, la personne qui l'a raconté à Thay dit, un loup ne reste jamais pris dans le truc. Il va tout faire pour se défaire. Mais comme nos trappeurs sont très habiles, il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour se dégager. Et la chose qu'il va faire, c'est qu'il va se mordre la patte, il va s'amputer, et il va partir avec les trois pattes qui restent, mais il y aura seulement une patte qui est là. Et le loup ne s'en va pas à l'urgence, parce qu'il n'y a pas d'urgence pour loup. Il se cache dans une place où il peut être en sécurité, dans une terrière. Il va arrêter. Ben, il ne peut pas arrêter, mais il va réduire son métabolisme, sa respiration, jusqu'au minimum. Il va juste rester comme ça, sans rien faire, sans bouger, sans manger, sans boire. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il va ressortir. Plus beau, plus maigre. Un pied en moins, mais vivant et guéri. Et Thay nous dit que nous sommes aussi un loup. Et nous avons aussi cette capacité de guérison. Mais nous avons perdu notre confiance en cette capacité de guérison que nous avons tous et que nous pouvons, si nous pouvons avoir confiance, redonner confiance, nous guérir le corps de cette façon-là, de la même façon que le loup peut le faire avec sa jambe qui manque. Donc le processus, c'est très simple. Arrêt, calme, repos, guérison. Et c'est la pratique de la guérison du corps. Et on a ici un maître Tai Chi qui sait comment faire ces choses-là. Comment, avec les mouvements, générer l'énergie, etc. Et il y aura un cours de Tai Chi qui va se donner à partir du mois de décembre-janvier. Surveiller les dernières nouvelles. Pourquoi le corps? Parce que le corps, c'est quelque chose qui est très facile. On le touche, on le sait, on le sent. Ce matin, lorsque Lily m'a appelé et que j'ai dû me lever, j'ai pas fait attention à mon corps et j'ai failli tomber. Et je me suis souvenu de cette leçon, parce que je n'ai pas eu donné la chance à mon pied de pouvoir se relâcher, puis etc., avant de marcher. Mais si nous nous pratiquons avec la pratique de la respiration et la guérison du corps, ça peut faire beaucoup de choses. Nous croyons beaucoup que le corps et l'esprit sont interreliés. En fait, si on pousse l'étude des 18 éléments plus loin, on verra que le corps c'est l'esprit et l'esprit c'est le corps. Et le corps n'est qu'une manifestation de l'esprit. Et de la même façon que le corps est une manifestation de l'esprit, nos maux dans le corps, que ce soit un cancer, que ce soit une ulcère, que ce soit n'importe quoi, n'est que la manifestation de quelque chose dans l'esprit, ou vice-versa. Vous me semblez sceptique, c'est pour ça que j'ai peur. Et je suis très heureux d'avoir des amis qui... Et c'est ça qui est parfait, parce que ne prenez pas mes paroles pour des vérités, surtout pas, s'il vous plaît. Je vous parle de mon feeling et de mes perceptions de ce jour. Et mes perceptions sont limitées et sont impermanentes. Alors aujourd'hui, je dis les choses selon mon feeling, selon mon expérience. Mais mon expérience va changer encore. Et demain, pas demain, mais quelques jours. Et je comprends pourquoi un maître Tai Chi peut... Parce que ça a l'air trop linéaire ce que je dis. Et en fait, dans la vie, il n'y a rien qui est linéaire. Ce n'est pas un processus 1, 2, 3, 4, mais c'est un processus itératif. Alors, lorsque je dis que le corps est une manifestation de l'esprit, c'est du 1 à origine fin, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas de ceci et cela, mais c'est le phénomène de l'inter-être et de l'interpénétration. Ça va, je m'en suis sorti. Donc on se guérit le corps pour aider notre esprit. Et hier, ce que Tiango a dit aussi, c'est que lorsqu'on a mal au dos, c'est difficile pour nous de pouvoir être joyeux, etc. Donc il y a un effet direct. Alors on se soigne, on donne un peu de chance à notre esprit. Et surtout quand on sait bien danser une danse latine, il faut y aller. En fait, c'est un processus qui nous permet de pouvoir nous entraîner. Et lorsqu'on est bien entraîné, on peut s'aventurer dans des choses un peu plus compliquées. Et on s'en va dans la transformation de l'esprit en utilisant le même processus. On est arrêté. On respire, on sourit. Et on regarde. Hier, on a parlé des sensations et des émotions. Donc, ces choses-là se manifestent lorsque nous ne sommes pas arrêtés, lorsque nous ne sommes pas présents. Ça nous entraîne dans des pensées, dans des actions qui nous mènent. Et la pratique, c'est de pouvoir... Ces deux trucs sont un peu mais c'est d'identifier et de reconnaître c'est quoi et de l'appeler par son vrai nom. C'est une colère, c'est une jalousie, c'est. Il y a 51 formations mentales et on peut en inventer d'autres, mais c'est identifier, reconnaître c'est quoi. Et juste en l'identifiant et en le reconnaissant, cette formation mentale vient d'être, selon cet enseignement, sous la protection, ou sous le mentorat, ou sous le de la pleine conscience. Identifier, reconnaître, c'est la capacité de la pleine conscience. L'arrêt qui permet de pouvoir identifier et reconnaître ce qui est là. Donc la pleine conscience permet de reconnaître ce qui est là. Et de la même façon que l'arrêt calme, Cette identification et reconnaissance va calmer la formation mentale qui est là. Va la calmer pour nous permettre de pouvoir être avec. Et lorsque nous sommes avec et que nous ne le fuyons pas, nous pouvons en voir les causes. Et de la même façon que l'arrêt comporte différents niveaux d'arrêt, les causes aussi peuvent être profondes ou superficielles. Et lorsqu'on découvre la première couche de causes, il ne faut pas trop vite, parce que on parle d'un épluchage d'oignons. On parle de soulever un voile après un autre pour pénétrer, pour interpénétrer et découvrir la cause. Un exemple. On peut tomber dans des grandes émotions. On s'arrête, puis première chose, oh, c'est encore lui, ce maudit. Mais non. Et dans cette chose-là, je ne sais pas où j'ai pris l'exemple, mais dans les sutras du Bouddha, il y a l'image d'un chien. Il y a un chien qui reçoit une roche, quelqu'un lui pète une roche, et puis là, bah, ça lui fait très mal. Et donc, la réaction du chien, c'est quoi? Oui, jappe après la roche, et mort après la roche, il perd ses dents. Et c'est ça qui est le risque. C'est que les causes sont lointaines, peuvent être lointaines, et ne pas s'arrêter à la première. Poursuivre l'investigation. Et l'année dernière, lorsque nous avons appris les 7 facteurs d'éveil, première, pleine conscience, deuxième, investigation des dharmas. Et c'est cela le travail. En fait, identifier la cause, on va trouver que c'est, le Bouddha nous l'a dit, c'est très simple. Quels que soient les mots, quels que soient les... On creuse, qu'est-ce qu'on va trouver? La suite a continué. au mois d'avril, à la même place. Les racines. Ok, je vais vous donner la réponse. Parce que je suis bon ami. Mais vous souvenez-vous de ce que le Bouddha a dit juste après son éveil? Comme c'est surprenant, c'est tellement simple. Et pourquoi est-ce que personne ne le comprend? Et se laisse prendre et revienne vie après vie dans ce cercle infernal du samsara. L'ignorance. Đúng mà, Trần Huy nói đúng không? Cái đó có thiệt mà. Ok. Allez, je vais vous le montrer. Non, je ne me souviens pas des paroles exactes que du Bouddha, je ne l'ai pas entendu. Cette chose qui nous emprisonne, ce goélier qui nous tient en prison, cette chose qui nous fait revivre, naître vie après vie dans ce cercle infernal du samsara, c'est l'ignorance. Et c'est pour ça que cette voie qui s'appelle la voie du Bouddha ou du bouddhisme, c'est la voie de l'éveil. Et de l'éveil qui est la libération de l'ignorance. Alors là, c'était ça la théorie des bons pratiquants. Je vais vous donner une recette plus facile, qui est la mienne. Je vais directement là. Et je reste là. Et quand quelqu'un, et puis ça arrive trop souvent, essaie de me pousser en dehors de cette place-là, je retourne ici. Ce que j'ai trouvé merveilleux quand j'ai rencontré mon maître, et c'est la seule leçon que j'ai retenue. Le bonheur existe. Il n'y a pas de voie vers le bonheur. Et le bonheur, c'est la voie. Et c'est ça la réalité. C'est ça la bonne nouvelle. Et nous savons que c'est vrai. Parce que nous avons eu la chance de le vivre. J'ai passé la première demi-heure à parler juste de ça. Et je vous ai dit que c'est la voie difficile et que ce n'est pas pour moi. Et que je suis un pratiquant paresseux. Et je choisis la voie facile. Alors je prends seulement le troisième. Vous voulez aller dans l'autre voie? Hier, nous avons regardé dans cette dimension historique. Il y a naissance, il y a mort, il y a souffrance. Mais en même temps qu'il y a souffrance, il y a aussi bonheur. C'est toujours notre choix. Parce que mon frère Jung Ho, aussi comme mon maître Tai Chi me regarde, il faut que je mette un bémol. Si je dis ça, c'est parce que j'y crois. Ça ne veut pas dire que j'y suis. Encore. Par contre, parce que j'y crois, je veux rester avec cette croyance et retourner aussi souvent, aussi longtemps que je le peux. Alors, ok, je vais continuer dans cette pratique, c'est plus facile. Premièrement, c'est quoi le bonheur? Le bonheur peut être... C'est quoi votre condition de bonheur? C'est quoi votre bonheur? C'est quoi votre source de bonheur? Le bonheur existe parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent, c'est facile, on achète un billet de loto. Alors peut-être c'est ceci qu'on pourrait voir. C'est quoi nos conditions de bonheur? C'est quoi les conditions de notre bonheur? Et lorsqu'on regarde ceci et qu'on regarde les causes, on va voir que je vais citer mon maître. Les conditions de ton bonheur en sont les obstacles. Les conditions que vous mettez à votre bonheur où les conditions pour votre bonheur sont les obstacles à votre bonheur. L'arrêt est l'instant présent. C'est tout ce que nous avons et tout ce qu'il y a. Et c'est là que le bonheur existe. Ce n'est pas dans le passé, ce n'est pas dans le futur. C'est ici, maintenant, bien arrêté. Et c'est cela notre pratique, c'est de s'ancrer dans l'instant, à chaque instant. Comme on dit, quand on écrit un livre et puis il y a une note, on dit, toute ressemblance avec les personnes, etc., n'est qu'un hasard. Et ce que je suis en train de vous raconter, ce n'est pas ce que je fais, ok? Loin de là. C'est juste mon rêve. Je suis très convaincu. C'est que vous n'êtes plus dans le présent. Vous venez de tomber dans le futur ou bien dans le passé. Je pense que je vais arrêter très vite pour nous donner la chance de pouvoir bénéficier de la présence et de la sagesse de Jung Ho et de Fin Yung et de Lily. Alors on va faire un panel dans 2 minutes pour vos questions. C'est cette pratique que j'essaie de pratiquer. Je suis bien loin d'y être parvenu, mais je sais que c'est ça que je veux faire. Et c'est mon seul objectif et c'est ma seule pratique. Et pour ça, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est la liste des bénédictions. Quelles sont les conditions nécessaires, essentielles de bonheur que nous avons maintenant, tout de suite? Puis je vais vous donner un indice tout de suite. Des yeux qui peuvent encore voir, des pieds qui peuvent encore marcher. Vous respirez, vous êtes en bonne santé. Vous n'êtes pas encore morte, vous n'êtes pas trop malade. Puis même si vous l'êtes, vous êtes encore vivante. Première chose. Parce que lorsque les choses iront un peu moins bien, et que vous sortez de cette zone-là, sortez la liste, puis vous verrez que vous n'avez pas grand-chose à vous plaindre. Que vous avez déjà plus de conditions que vous avez besoin pour pouvoir être pleinement heureux. Deuxième chose. Le bonheur, c'est comme n'importe quoi. Ça a une nature organique. Et ça se cultive et ça se nourrit. Et c'est pour ça que la pratique que nous faisons, ça s'appelle nourrir la joie. Et c'est une pratique très simple. Regardez notre site web, nourrir la joie, comment nourrir la joie au village des pruniers. Alors au village des pruniers, ou chez nous, ou à Chicoutimi, même Christy d'affaires. Troisième chose. Je vais vous donner un secret. C'est un nombre du dharma que Tiongho ne connaît pas. J'appelle cela les trois sauts. Alors quand vous prendrez le cours des nombres du dharma, Tiongho va vous parler des trois sauts du dharma. The three dharma sir. Moi, je vous parle des trois sauts de Tenikan. C'est la pratique de l'instant. La pratique de l'instant, dans l'instant et pour l'instant. Je me répète. La pratique de l'instant, dans l'instant, pour l'instant. Nous ne pratiquons pas pour un bonheur futur. Nous ne pratiquons pas hier pour aujourd'hui, nous pratiquons ici, maintenant, dans l'instant. Et les bénéfices sont instantanés. C'est pour ça que nous pratiquons pour l'instant. Qu'est-ce que nous pratiquons? La joie. Le troisième, je vous le laisse deviner. Continuel. Mais ce mot continuel, c'est un ajout. Parce qu'il est déjà contenu dans l'instant. Alors nous pratiquons l'instant, dans l'instant, pour l'instant. Le dernier, c'est à chaque instant. Le continu, c'est la pratique diligente. C'est la pratique de tout instant. C'est la pratique à chaque instant. C'est la pratique 24 heures par jour, 7 jours semaine, 365 jours et quart par an. Et c'est cela, notre pratique. Donc, le plancher est ouvert. Il y a beaucoup plus de sagesse et d'intelligence et d'âge. Vous aviez une question?
S'il y a des conditions, il y a des attentes. Tout est là-dedans. Hier, dans notre discussion, dans notre petite famille, on a parlé des attentes aussi, et donc des attachements, et donc des attentes. Et c'est la perpétuité. Et de voir vraiment, de prendre une feuille de papier et de, très simple, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que je le veux vraiment? J'avais fait cet exercice avant de connaître la pratique, et ça fait 30 ans, parce que je n'étais pas contente du tout. On m'appelait le grognon à la maison. Je râlais tout le temps. Parfois je râle encore, mais beaucoup moins. Et je me suis prise un après-midi et je dis, mais enfin, mais qu'est-ce que j'ai? Et j'ai écrit des tâches. Est-ce que je veux être millionnaire? Non. Je l'ai enlevé. Et j'en ai mis plein de choses comme ça. Qu'est-ce que je veux ? Il ne m'est pas resté grand-chose. Alors c'est ça, vraiment. C'est, prenez un papier, écrivez qu'est-ce que vous voulez vraiment. Concret. Argent, beaucoup dormir, beaucoup manger, être reconnu. Tout ça, l'ego, l'amour. On veut de l'amour, mais quel amour ?
J'aimerais ajouter un peu, parce que les conditions, c'est jamais arrête. Parce que chaque moment, chaque époque, on a besoin de telle condition. Et avec atteindre la condition, et on va avoir d'autres conditions. Toujours la condition est montée. Et jamais atteindre le but. Pour cela, on est pas satisfait avec la condition échangée et on va devenir comme avidité. Oui, avidité, c'est jamais satisfait. C'est ça. Pour cela, on peut que le but ici, mais le but ce n'est pas rester ici tout le temps jusqu'à la fin du jour, mais le but changer, comme l'échelle, il va monter et on devient trop gourmand pour obtenir beaucoup de choses. C'est ça, c'est le but. C'est une obstacle pour nous. Merci.
Oui, vous avez raison. Ça devient un obstacle parce que ça empêche d'avoir le bonheur présent, à l'instant présent. Mais si on utilise comme encouragement, comme un challenge, ça devient une source d'encouragement, une source de bonheur. Alors, c'est, pour moi, c'est arrêt ici, c'est la liberté de l'esprit, c'est la liberté de notre esprit. Si on l'utilise comme ça, ça devient que arrêter des perturbations de notre esprit. Alors, ok, ça va. On a la perturbation que je veux avoir un peu plus de l'argent pour qu'on puisse avoir la sécurité de ma retraite. Ça donne un peu de irritation pour que mon bonheur de l'instant présent. Ok, j'ai pratiqué la méditation, je vais relâcher mon corps, je vais nourrir notre bonheur du corps et de l'esprit. Et puis j'ai pensé à l'autre irritation là. Est-ce que ça donne la raison? Et puis, ok. Si on peut, je peux, pour l'instant présent, je vais planifier pour avoir un peu plus de l'argent et je sais qu'on doit sacrifier le temps pour que moi-même, le temps pour que ma femme, le temps pour mes grandes familles, pour qu'on peut avoir un peu plus de l'argent. Alors, c'est balancé, c'est équilibre, comme Jenny a dit. Alors, c'est à nous à définir le bonheur. Et c'est à nous à définir l'arrêt. Alors, le mot, c'est un peu compliqué de utiliser. Je veux dire quelque chose ici, parce que c'est comme ça, il y a des choses un peu mal compris, misunderstanding, parce que Quand Chenui a dit regarde-moi, elle est très. J'aime son discours parce que c'est vivant, tout le monde participe. Et puis il me regarde, il dit est-ce que c'est. Et puis tout de suite, il dit que non, c'est pas convaincu. C'est pas de dire que complètement que je doute ce que lui a dit, mais ce que je me rappelle de ma fille, parce qu'il y a des fois que j'ai dit à elle que arranger les choses dans la chambre, c'est désordre. Et elle m'a dit, regarde dans ta chambre. Ta chambre, c'est un désordre aussi. Et je dis à elle, mais regarde, on sait qu'est-ce que c'est bon avec la pensée. Et je dis ce que c'est bon pour toi. Mais je ne peux pas expérience, pas encore. Je ne peux pas arriver à faire. Alors, c'est pas convaincu à elle. C'est pour ça que. Je m'excuse, Tianhui, de dire, mais ça vient parce que si on n'a pas arrivé on est encore en pratique, pas vraiment complètement convaincu, c'était difficile à faire. C'est pour ça que Tianhui, ma femme, et beaucoup de fois, on a des résistances. Et quand je regarde à elle, parce que moi, j'ai l'habitude de dire quelque chose, c'est très vite, je pensais. Et puis, je dis quelque chose, mais elle me regarde. Oh, je dis quelque chose, mais je n'ai pas réalisé. Alors, ce n'est pas convaincu si on ne peut pas réaliser. Mais dans notre côté, au moins, on a déjà pensé dans la direction. On peut parler à ça. Papa, on peut admettre que I have to admit that I have not realized it.
Merci. Je vais rajouter un peu à cette question. Pas de condition de bonheur. Au bonheur ne veut pas dire ne pas avoir de désir. Dans les désirs, il y a des échelles de désirs. Il y a les besoins, il y a des désirs. Et dans notre vocabulaire, il y a un mot qui est conviction et volition. Lorsqu'on est engagé dans des œuvres sociales, c'est très important de nourrir cette flamme. Et dans le bouddhisme, on appelle cela le bodhicitta. Cette énergie d'amour qui nous pousse sur ce chemin vers la réalisation de la libération. Alors ce matin, lorsque nous avons entendu parler à la transmission des entraînements, pratiquer les entraînements à la pleine conscience, c'est déjà être sur le chemin des bodhisattvas. Et puis il faut garder cette flamme vivante. Maintenant, est-ce que cette condition au bonheur est un obstacle au bonheur? Ça se peut. Ça se peut si on est attaché aux résultats. Et c'est pour ça que il faut être dans l'instant, pratiquer à chaque instant, dans l'instant, pour l'instant, sans attente de ce qui va pouvoir ou non se réaliser dans le futur. C'est clair? Notre question.
Et si le Bouddha n'avait pas pris un verre de lait, on ne serait pas là. Il a pratiqué l'ascétisme pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il tombe en défaillance. Et il a fallu qu'il prenne un verre de lait, alors qu'il jeûnait pendant très 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 longtemps. Et quand il a ressenti un rayon de soleil chaud sur son épaule dénudée, ça lui a fait tellement de bien qu'il a été dans la rivière. Et il a pris un bon bain. Donc il a brisé son ascétisme et après il s'est senti beaucoup mieux. Et c'est après qu'il a atteint l'éveil, après cela. Alors, c'est comme, oui, et lui-même a dit qu'il nous faut des conditions pour être heureux, que les personnes pauvres auront plus de difficultés que les personnes qui ont les conditions de base. Alors, c'est comme en anglais, on use your brain, je veux dire, oui, on a besoin, il faut manger. D'ailleurs, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on fait du tai chi? Pourquoi on fait du qigong? Pourquoi on dort bien? Pourquoi on mange en pleine conscience? C'est pour prendre conscience de tout ce processus d'interdépendance entre moi, le corps, l'univers et tout, de tout ce qu'il me faut pour être. Qu'est-ce que ça me fait? Comment je le prends? Comment ça me nourrit? Comment je suis malheureuse ou comment je suis heureuse? Et les quatre fondements, c'est exactement ça. Je prends conscience de mon corps, dans mon corps, c'est-à-dire mon orteil, dans mon corps. Et je prends conscience des sensations quand mon orteil me fait mal, ou je prends conscience des émotions quand il y a une sensation, et je prends conscience de la pensée quand il y a l'émotion qui a été causée par la sensation qui a été causée par l'orteil. Et c'est tout cela. Alors, ce juste milieu, c'est encore une fois de voir qu'est-ce qui me nourrit et combien ça me nourrit et combien il faut pour me nourrir, sans rien rejeter. Sinon, on ne serait pas vivant. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors moi, j'adore voir Bouddha prendre un bain dans la rivière.
Je veux ajouter juste, je pense que tout le monde ici a déjà pratiqué la pleine conscience. Alors, je pense que c'est ça la condition du bonheur, la pleine conscience. Toutes les autres conditions sont des conditions qu'on peut découvrir. Avec la pleine conscience, on peut découvrir assez simple. La condition de mon bonheur, c'est go shopping. L'autre condition, peut-être pour moi, c'est seulement avoir un peu de temps de lire le livre, d'avoir le temps de pratiquer de tai chi, comme vous, chaque jour, parce que ça réduit le niveau de sucre dans mon sang, parce que je suis diabète. C'est ça qu'on peut, avec la pleine conscience, qu'on peut découvrir. Et c'est quoi? Water, toutes les graines du bonheur.
Témoignage vivant vécu, bien plus important que mon raisonnement et mon intellect. Donc, c'est ça qui est ça, that's it. Une autre retraite qui achève. Merci beaucoup pour votre participation. Bonne continuation, bonne pratique. Nous espérons vous revoir à toutes les activités que nos amis travaillent très fort pour offrir. Cette retraite est le fruit de beaucoup de travail, beaucoup de monde. Du monde qui travaille tous les jours de l'année pour pouvoir ouvrir le centre, être présent pour vous. Cette pratique ne peut pas, ne doit pas se limiter à la retraite ou à l'année de pleine conscience. C'est une pratique que nous pouvons amener chez nous à chaque instant. Et nous savons que les conditions pour nous permettre de maintenir cette diligence sont difficiles. Et nous avons besoin d'une sangha de pratique. Et à Montréal, nous avons plusieurs sanghas de pratique qui peuvent être là pour nous soutenir. Alors, c'est une bénédiction. Profitez-en. Les amis avec qui je travaille aux États-Unis n'ont pas cette chance. Ils peuvent juste m'entendre par téléphone une fois par mois. Et ils trouvent que c'est déjà une bénédiction. Et lorsqu'ils savent qu'il y a un centre qui est ouvert 5 jours par semaine, c'est le paradis. Alors nous avons toutes les conditions pour notre pratique. Profitez-en. Deuxième chose que je voudrais mentionner, cette pratique est profonde et merveilleuse. elle a apporté beaucoup de bienfaits à beaucoup de monde. Et j'en suis le premier à en avoir bénéficié. Et c'est cette gratitude qui me garde sur ce chemin pour le partager avec tout le monde que je peux toucher. Mais ce n'est pas une panacée. Elle est limitée. Et lorsque je parle à l'université d'Avila, avec dans le département de psychologie, je suis très prudent et je dis que c'est, ils sont en train de faire des recherches pour voir si la pleine conscience est par elle-même un outil thérapeutique et ils n'ont pas encore pu le prouver. Alors la pleine conscience est un moyen pour moi de prévention. Si on vit dans la pleine conscience, ça peut nous préserver, nous sauver, nous de plusieurs maux qui, si nous avons vécu dans la pleine conscience, n'auraient peut-être pas survenu. Lorsqu'on est tombé et qu'on est malade, la pleine conscience peut supporter, peut aider un traitement, mais ne peut pas remplacer un traitement. La pratique de pleine conscience est aussi très bonne pour pouvoir supporter, complémenter, renforcer les effets des médicaments, mais ne remplace pas les médicaments. Une fois que vous êtes sorti de votre maladie, poursuivez la pratique, et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir vous maintenir et de ne pas relapse. Alors c'est ça le bémol que je voulais vous mentionner.